Chapitre 4. Le jardin de pierre. Château Bazin, petite forteresse de la côte de Serre, tomba peu de temps avant que Royal se couronnât roi des six duchés. De nombreux villages furent détruits pendant cette terrible époque et on n'a jamais pu établir de véritables décomptes des vies perdues. Les forts mineurs, comme Bazin, étaient de fréquentes cibles pour les attaques des pirates rouges, dont la stratégie consistait à s'en prendre au village et au petit château pour affaiblir la défense générale du royaume. Le seigneur Bronze, qui commandait Château Bazin, était un vieil homme, ce qui ne l'empêcha pas de diriger ses soldats contre l'assaut. Malheureusement, les lourds impôts prélevés afin d'assurer la protection de l'ensemble du littoral avaient diminué ses ressources et les fortifications du château étaient en mauvais état. Le seigneur Bronze fut parmi l'un des premiers à périr, et les pirates n'eurent guère de mal à s'emparer de la forteresse avant de la réduire par le feu et l'épée en l'amoncellement de pierrailles qu'elle est aujourd'hui. À la différence de la route d'art, celle que nous suivîmes le lendemain avait subi les ravages du temps. Autrefois, c'était sans doute une large voie de circulation, mais l'avancée de la forêt n'en avait laissé qu'une piste étroite, et, si pour moi, marcher sans avoir à me soucier à tout instant que la route ne me vole mon esprit était presque un délice, mes compagnons pestèrent à mi-voie contre le terrain accidenté, les racines, les branches tombées et autres obstacles que nous dûmes affronter toute la journée. Pour ma part, je gardais mes pensées pour moi-même et savourais le contact de la mousse épaisse qui recouvrait l'antique pavage, l'ombre des arbres aux branches bourgeonnantes qui s'arquaient au-dessus de nous et le bruit de fuite de quelque animal dans les sous-bois. Œil de Nuit était dans son élément. Il s'en allait en avant de notre groupe, puis revenait au galop et trottait un moment aux côtés de Kétriken. Enfin, il repartait rôder dans la forêt. Une fois, il arriva près du fou et de moi-même à toute allure, s'arrêta, la langue pendante, pour annoncer que nous chasserions le sanglier ce soir-là, car il y en avait des traces en abondance. Je relayai le message au fou.
« Je n'ai pas perdu de sanglier, je ne vois pas pourquoi. J'irai en chercher un, » répliqua-t-il d'un ton hautain.
J'étais assez d'accord avec lui. La cicatrice que Burick portait à la cuisse m'avait rendu plus que méfiant envers ces grands animaux aux dangereuses défenses.
« Des lapins, » suggérai-je à Œil de Nuit. « Chassons plutôt des lapins. »
« Des lapins pour des lapins !»
repartit-il avec dédain, et il partit comme un éclair. Je laissai passer l'insulte. Il faisait juste assez frais pour rendre la marche agréable et, à sentir les odeurs de la forêt verdissante, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Kétriken avançait en tête, perdu dans ses pensées tandis que Caudron et Astérie nous suivaient, absorbés dans leur conversation. La vieille femme avait toujours tendance à marcher moins vite que le reste du groupe, mais elle paraissait avoir acquis de l'énergie et de la force depuis le début de notre voyage. La ménestrelle et elle se trouvaient à bonne distance de nous quand je demandai à mi-voix au fou.
« Pourquoi laisses-tu Astérie croire que tu es une femme ?»
Il se tourna vers moi, fit bouger ses sourcils de haut en bas et m'envoya un baiser.
« Mais ne suis-je pas belle, jeune prince ?»«
Je ne plaisante pas.
Elle te prend pour une femme et elle est persuadée que tu es amoureux de moi. Elle s'imagine que nous avions un rendez-vous galant hier soir. »«
Et ce n'était pas le cas, grand timide que tu es ?»
Il me lança une œillade appuyée.
« Fou !» dis-je d'un ton menaçant.
« Oh !»
Il soupira soudain. « Peut-être la vérité est-elle que je crains de lui montrer ma preuve, de peur qu'ensuite tous les hommes ne la déçoivent » fit-il en se désignant d'un geste sans équivoque. Je le regardai dans les yeux jusqu'à ce qu'il reprenne son sérieux.
« Quelle importance qu'elle croit !»
fit-il.
« Laisse-la croire ce qui est le plus facile pour elle. »
« C'est-à-dire ?»«
Elle avait besoin d'un confident, et c'est moi qu'elle a choisi pendant quelque temps. Peut-être est-il plus facile pour elle de se persuader que j'étais une femme comme elle. »
Il soupira de nouveau.
« Depuis le temps que je vis parmi vous, c'est la seule chose à laquelle je n'ai jamais pu m'habituer, l'importance que vous attachez au sexe de chacun. »
« Pourtant, il est important de... »
Il m'interrompit.
« Fadaise !»
s'exclama-t-il.
« C'est une question de tuyauterie, ni plus ni moins. En quoi est-ce important ?»
Je le dévisageais, incapable de trouver une réponse.
Pour moi, c'était tellement évident que ça allait sans dire.
Ne pourrais-tu pas simplement lui assurer que tu es un homme et qu'on n'en parle plus ?
Demandai-je au bout d'un moment.
Mais on continuerait à en parler, Fitz,
répondit-il d'un ton avisé.
Il franchit un arbre qui barrait la piste et attendit que je le rejoigne, car alors elle voudrait savoir pourquoi, si je suis un homme, je ne la désire pas, et elle trancherait. Ce serait soit une anomalie chez moi, soit quelque chose qu'elle percevrait comme une imperfection chez elle. Non, je ne crois pas qu'il faille s'exprimer sur ce sujet, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais Astérie a le défaut de tous les ménestrels. Elle croit que tout, même les questions les plus intimes, doit faire l'objet d'une discussion, ou mieux, d'une chanson.
Ah oui ? Il prit soudain une pause au milieu de la piste forestière, une pause qui évoquait si fort Astérie lorsqu'elle s'apprêtait à déclamer, que j'en fus effrayé, et que je me retournai vers elle à l'instant où le fou entonnait une chanson entraînante.
Dites quand le fou pisse, c'est à quel angle selon vous, et si ses choses se glissent, voit-on un tube ou bien un trou ?
Mon regard revint sur le fou. Il s'inclinait avec les fioritures qui marquaient souvent la fin de ses exhibitions. J'avais envie à la fois d'éclater de rire et de rentrer sous terre. Je vis Astérie rougir et s'avancer vers nous, l'œil menaçant, mais Caudron la retint par la manche et lui glissa quelques mots à l'oreille d'un air sévère. Puis, elles nous foudroyèrent toutes deux du regard. Ce n'était pas la première pitrerie du fou à me mettre dans l'embarras, mais celle-ci était une de ses plus affûtées. J'adressai un geste d'impuissance aux deux femmes, puis me retournai vers le fou. Il suivait le chemin en cabriolant. Je me hâtai de le rattraper.
« Ne t'es-tu pas dit que tu risquais de la blesser ?» lui demandai-je avec colère.
« J'y ai songé autant qu'elle a songé à mes sentiments lorsqu'elle a commencé à répandre ses allégations sur moi. » Il pivota brusquement en agitant sous mon nez un long doigt fin.
« Avoue-le, tu m'as questionné sur le sujet sans te demander un instant si cela pouvait ou non froisser ma vanité. Comment réagirais-tu si j'exigeais la preuve que tu es bien un homme ?»
Ses épaules tombèrent soudain et toute énergie parut le quitter.
Se perdre en paroles sur un tel sujet, avec tout ce que nous devons encore affronter.
N'en parle plus, Fitz, et j'en ferai autant. Qu'elle me désigne au féminin, si cela l'amuse, je ferai de mon mieux pour ne pas y prêter attention.
J'aurais dû me taire, mais je n'en fis rien. Elle croit que tu m'aimes, voilà tout, dis-je pour me justifier.
Il m'adressa un regard étrange.
« Mais c'est vrai ?»«
Non, enfin, comme une femme aime un homme. »
Il prit une inspiration.
« Et comment est-ce ?»
Je veux dire, j'étais presque en colère qu'il fît semblant de ne pas comprendre.
« En couchant, semblant !»«
C'est comme ça qu'un homme aime une femme, en couchant avec elle. » »«
Ça en fait partie !»
J'étais soudain sur la défensive, mais j'ignorais pourquoi. Il haussa les sourcils et déclara calmement
« Tu recommences à confondre amour et tuyauterie ?»«
C'est autre chose que de la tuyauterie »
criai-je, et un oiseau s'envola tout à coup en croissant. Je jetai un coup d'œil à Caudron et Astérie qui échangeaient un regard intrigué.
« Je vois, » fit-il.
Il resta un moment songeur pendant que je marchais devant lui à grandes enjambées. Puis il me demanda
« Dis-moi, Fitz, « Était-ce Molly que tu aimais, ou ce qu'il y avait sous ses jupes ?»
Ce fut à mon tour de me sentir offensé, mais je refusais de me laisser réduire au silence.
« J'aime Molly, et tout ce qui est elle !»
La chaleur que je sentais monter à mes joues m'était odieuse.
« Voilà, tu l'as dit toi-même, » répondit le fou comme si j'avais fait une démonstration à sa place. « Et moi, je t'aime, et tout ce qui est toi. »
Il inclina la tête. Sa question suivante recelait un défi.
« Ne me le rends-tu pas ?»
Il avait l'air attentif. Pour ma part, je me mordais les doigts d'avoir entamé cette conversation. « Tu sais bien que je t'aime, » dis-je enfin à contre-cœur. « Après tout ce qui s'est passé entre nous, comment peux-tu en douter ? Mais je t'aime comme un homme en aime un autre. » À cet instant, le fou me lança une œillade, à la fois paillarde et moqueuse. Puis une lueur s'alluma subitement dans ses yeux, et je compris qu'il me préparait un tour épouvantable. Il bondit sur un tronc abattu, et de là, il adressa un regard de triomphe à la ménestrelle, en s'écriant d'une voix théâtrale.
« Il m'aime ! Il l'a dit, et moi aussi, je l'aime !»
Puis, avec un grand éclat de rire, il sauta au sol et partit sur la piste à toutes jambes. Je me passai la main dans les cheveux, puis franchis lentement l'arbre tombé. Derrière moi, j'entendis le rire de Caudron et les marmonnements furieux d'Astérie. Je marchai en silence dans la forêt, en me repentant de ne pas avoir eu le bon sens de tenir ma langue. La ménestrelle devait bouillir de rage. Elle m'adressait déjà rarement la parole auparavant. J'avais accepté qu'elle considère mon vif comme une sorte d'abomination, car elle n'était pas la première à s'en effrayer, mais au moins elle me manifestait une certaine tolérance. Et désormais, sa colère aurait un aspect plus personnel. Un nouveau petit bout qui s'en allait du peu qui me restait. Une partie de moi-même regrettait amèrement l'intimité que nous avions partagée un temps. Je regrettais le réconfort de la sentir dormir contre mon dos ou de me saisir brusquement le bras pendant que nous nous promenions. J'avais cru avoir fermé la porte de mon cœur à ce genre de besoin. Mais cette chaleur humaine, toute simple, me manquait soudain. Comme si ce sentiment avait ouvert une brèche dans mes murailles, je songeais tout à coup à Molly et à Horty, toutes deux en danger à cause de moi. Ma gorge se noua brusquement. « Je ne dois pas penser à elles, me dis-je, en m'efforçant de me rappeler que j'étais impuissant. Je n'avais aucun moyen de les prévenir sans les trahir, ni d'arriver jusqu'à elles avant les séides de Royal. Il ne me restait qu'à me fier à la force du bras de Burick et à me raccrocher à l'espoir que Royal ne savait pas où elle se trouvait. Je sautais un petit ruisseau et tombais nez à nez avec le fou qui m'attendait. Il m'emboîta le pas sans prononcer une parole. Son humeur folâtre paraissait lui avoir passé. Je me rappelais que j'ignorais presque complètement où habitaient Molly et Burick. Certes, je connaissais le nom d'un village proche, mais tant que je gardais ce renseignement par-devers moi, il ne risquait rien.
« Ce que tu sais, je peux le savoir. »«
Qu'as-tu dit ? » demandai-je au fou, saisi. Ses propos avaient si précisément répondu à mes pensées qu'un frisson glacé m'avait traversé.
« J'ai dit, ce que tu sais, je peux le savoir, » répéta-t-il d'un air absent.
« Pourquoi ? » ?»«
C'est bien ce que je me demande. Pourquoi aurais-je envie de savoir ce que tu sais ?»«
Non, pourquoi as-tu dit ça ?»«
En vérité, Fitz,
je l'ignore. »
Ces mots se sont présentés à mon esprit, et je les ai prononcés. Je tiens souvent des propos auxquels je n'ai pas bien réfléchi.
On eût presque dit une excuse.
Moi aussi, répondis-je.
Je gardais ensuite le silence, mais j'étais inquiet. Depuis l'incident du pilier, le fou paraissait avoir retrouvé une partie de sa personnalité de Castelserre. Ce soudain regain de confiance et d'énergie me faisait plaisir, mais me troublait aussi. Je craignais qu'il ne plaçât trop de foi dans sa déclaration sur le déroulement des événements tel qu'il devait s'opérer. Je n'oubliais pas non plus que sa langue acérée avait plus tendance à mettre les conflits à nu qu'à les résoudre. J'en avais personnellement senti la pointe à plusieurs reprises, mais dans le contexte de la cour du roi subtil, cela n'avait rien d'étonnant. Ici, dans un groupe réduit, elle semblait beaucoup plus effilée, et je me demandais s'il m'était possible d'émousser son humour. Je secouai la tête, puis évoquai résolument le dernier problème que m'avait soumis Caudron, et le gardai à l'esprit tout en franchissant les obstacles de la forêt et en évitant les branches basses. L'après-midi tirait à sa fin, et notre chemin s'enfonçait de plus en plus au creux d'une vallée. En un certain point, l'ancienne piste nous offrit une vue du paysage en contrebas. Je distinguais les branches tombantes et couvertes de perles vertes de saule qui mettaient leurs feuilles, et les troncs rosés de bouleaux à papier dressés au-dessus d'une épaisse prairie. Plus loin, au fond du vallon, j'aperçus les extrémités marron des massettes de l'année passée. La luxuriance de l'herbe et des fougères indiquait un terrain marécageux aussi sûrement que l'odeur de l'eau stagnante. En voyant le loup revenir de sa dernière errance, trempé jusqu'au flanc, je sus que je ne m'étais pas trompé. Nous arrivâmes bientôt devant un nouvel obstacle. En des temps reculés, un cours d'eau impétueux avait emporté un pont et dévoré la route de part et d'autre de son lit. À présent,
La rivière, réduite à un mince filet, coulait, argentée, dans un lit de gravier, mais les arbres abattus sur les berges attestaient de sa fureur lors des crues. Un cœur de grenouille se tut brusquement à notre approche. Bondissant de rocher en rocher, je pus franchir le ruisseau à pied sec, mais nous n'avions guère progressé qu'un second cours d'eau croisait notre chemin, et, entre me mouiller les pieds et me mouiller les bottes, je choisis la première solution. L'eau était glacée, mais cela présentait l'avantage, le seul d'ailleurs, de m'insensibiliser contre les arêtes des cailloux au fond. Enfin, parvenu sur la rive d'en face, je renfilai mes bottes. Notre petit groupe avait resserré ses rangs à mesure que le chemin devenait plus difficile, et nous reprîmes notre marche ensemble et en silence. Des merles sifflaient et les premiers insectes de l'année bourdonnaient.
« Que de vie il y a ici !» fit Ketriken à mi-voix.
Ses paroles parurent flotter dans l'air immobile et tiède, et j'acquiesçai involontairement. La vie abondait autour de nous, tant végétale qu'animale. Elle saturait mon vif et semblait emplir l'air comme une brume. Après les pierres nues des montagnes et la route d'art déserte, ce foisonnement de vie avait quelque chose de capiteux. C'est alors que je vis le dragon. Je m'arrêtai brusquement et levai le bras pour imposer silence et immobilité à mes compagnons, qui parurent saisir aussitôt le sens de mon geste. Leurs regards suivirent le mien. Astérie émit un hoquet de surprise, et le loup se hérissa. Nous contemplâmes la créature qui n'avait pas bougé. Verte et dorée, elle était étendue dans l'ombre mouchetée des arbres. Elle se trouvait trop loin de la piste pour que j'en visse plus que des fragments entre les troncs, mais ils étaient déjà très impressionnants. Sa tête immense, aussi longue qu'un cheval, reposait profondément enfoncée dans la mousse. Le seul œil que je pouvais voir était clos. Une sorte de vaste crête d'écailles plumeuses, couleur d'arc-en-ciel, s'étalait flasque le long de son cou. Des touffes semblables au-dessus des yeux lui donnaient un air presque comique, sauf qu'il ne pouvait rien y avoir de comique chez un être aussi étrange et gigantesque. Je distinguais une épaule écailleuse et serpentant entre deux arbres un tronçon de queue. Des feuilles mortes amassées le long du dragon lui faisaient comme un nid. Après un long moment où chacun retint son souffle, nous échangeâmes un coup d'œil. Ketriken leva les sourcils en me regardant, mais je m'en remis à sa décision d'un petit haussement d'épaule. Je n'avais aucune idée des dangers que nous courions, ni de la façon d'y faire. Avec d'infinies précautions, et sans le moindre bruit, je tirai mon épée qui me parut soudain ridicule. Autant valait affronter un ours avec un couteau de table. J'ignore combien de temps nous restâmes ainsi immobiles, mais j'eus l'impression d'une éternité. Au bout d'un moment, mes muscles commencèrent à me faire mal à force de crispation. Les gépas s'agitaient impatiemment, mais demeurèrent en ligne, tandis que Ketriken obligea leur chef à se tenir tranquille. Enfin, d'un petit geste, elle nous fit lentement reprendre notre route. Une fois que la bête endormie eut disparu derrière nous, je respirai un peu plus librement. Puis, brutalement, vint la réaction. Des courbatures naquirent dans ma main serrée sur la garde de mon épée et tous mes muscles s'amollirent. J'écartai de mon visage mes cheveux poisseux de sueur, puis me tournai pour échanger un regard de soulagement avec le fou. Ses yeux étaient fixés derrière moi, pleins d'une expression incrédule. Je pivotai rapidement, et comme des oiseaux en vol, les autres imitèrent mon mouvement. Encore une fois, nous nous arrêtâmes, pétrifiés, muets, pour voir un second dragon plonger dans le sommeil. Celui-ci était vautré dans l'ombre profonde d'un bosquet de conifères. Comme le premier, il était enfoncé dans la mousse et les débris végétaux, mais là s'arrêtait la ressemblance. Sa longue queue sinueuse s'enroulait autour de lui telle une guirlande, et ses écailles lisses luisaient d'un somptueux brun cuivré. Je vis des ailes repliées contre son corps étroit, un long cou rabattu sur son dos, comme celui d'une oie endormie, et une tête qui évoquait également celle d'un oiseau, jusqu'au bec qui rappelait celui d'un faucon. Du front jaillissait une corne brillante extrêmement acérée. Les quatre membres repliés sous le corps me firent songer à un cerf plus qu'à un lézard. Appeler de telles créatures des dragons me paraissait incongru, mais je ne disposais d'aucun autre terme pour désigner des êtres comme ceux-ci. Encore une fois, nous demeurâmes immobiles tandis que les gépas s'agitaient nerveusement. Ketriken rompit soudain le silence.
Je ne crois pas qu'ils soient vivants. Ce doivent être d'habiles sculptures. Ce n'était pas ce que m'indiquait mon sens du vif. Ils sont tout ce qu'il y a de vivant, l'avertis-je à mi-voix. Je commençais à tendre mon esprit vers l'un d'eux, mais Œil de Nuit s'affola brusquement, et je ramenai mon vif à moi. Ils dorment très profondément, comme s'ils hibernaient encore après un hiver très froid, mais je sais qu'ils sont vivants. Pendant que Ketriken et moi discutions, Caudron avait décidé d'aller se rendre compte par elle-même. Je vis la reine écarquiller les yeux et me retournai en redoutant de voir le dragon éveillé, mais c'est Caudron que je vis. Sa main ridée posée sur le front immobile de la créature. Elle parut trembler lors du contact, puis elle sourit presque avec tristesse et caressa la corne en spirale.
« Quelle beauté !»
fit-elle d'un air pensif.
« Quel art !»
Elle s'adressa à nous tous.
« Regardez comme les plantes grimpantes de l'an passé se sont enroulées autour du bout de sa queue. Voyez comme il gît profondément enfoncé dans les feuilles, accumulées depuis une vingtaine d'années, ou peut-être un siècle. Et pourtant, la moindre de ses écailles est restée luisante, tant l'ouvrage est parfait. »
Astérie et Ketriken s'approchèrent avec des exclamations d'émerveillement et de ravissement. Bientôt, les trois femmes furent accroupies près de la sculpture, chacune attirant l'attention des autres sur les moindres détails de la créature. Elles admiraient les écailles amoureusement gravées des ailes, la grâce fluide des sinuosités de la queue et tous les autres prodiges qu'avait opérés l'artiste. Mais pendant qu'elles désignaient tel détail ou touchaient tel autre avec avidité, le loup et moi restions en retrait. Œil de Nuit avait l'échine tout hérissée. Loin de gronder, il émettait un gémissement si aigu qu'on eût presque dit un sifflement. Au bout d'un moment, je m'aperçus que le fou ne s'était pas joint aux trois femmes. Il contemplait le dragon de loin, les yeux agrandis, comme un avare contemplerait un tas d'or plus grand que dans ses rêves les plus fous. Même ses joues pâles paraissaient rosées.
« Fitz, venez voir! Ce n'est que de la pierre, si bien sculptée qu'on la jurerait vivante. Et tenez, en voici un autre, avec des andouillés de cerf et un visage humain. »
Ketriken tendit le doigt, et j'aperçus une nouvelle forme étendue sur le sol de la forêt. La reine et ses deux compagnes délaissèrent leur première trouvaille pour observer la nouvelle en s'exclamant de rechef sur sa beauté et la finesse de ses détails. Je m'avançais avec l'impression d'avoir les jambes en plomb, le loup serré contre moi. Quand je me tins près du dragon cornu, je vis un cocon pelucheux d'araignée fixé dans le creux d'un sabot. Nulle respiration ne soulevait les côtes de la créature, et je ne sentis émaner d'elle aucune chaleur. Enfin, par un effort de volonté, je touchai la pierre froide. « C'est une statue, » dis-je, tout haut, comme pour me convaincre de ce que niait mon vif. Je promenai mon regard autour de moi. Au-delà de l'homme cerf qu'Astérie admirait toujours, Caudron et Ketriken souriaient devant une autre sculpture, semblable à un sanglier couché sur le flanc. Les défenses qui pointaient de sa hure devaient avoir la même taille que moi. Sous tous les aspects, elle ressemblait au cochon sauvage qu'Œil de Nuit avait tué, si l'on omettait son gigantisme et ses ailes repliées. « J'ai repéré au moins une dizaine de ces sculptures, » annonça le fou. « Et derrière ces arbres, j'ai découvert une colonne gravée qui ressemble à celle que nous avons déjà vue. » Avec curiosité, il posa la main sur la peau d'un des dragons et faillit la retirer en faisant la grimace à son contact glacé. « Je ne peux pas croire que ce ne soit que de la pierre sans vie, » lui dis-je.
« Moi non plus, je n'ai jamais vu un tel réalisme dans une sculpture, » acquiesça-t-il. Je ne cherchais pas à lui expliquer qu'il m'avait mal compris et m'absorbais dans mes réflexions. Ici, je percevais de la vie alors qu'il n'y avait que de la pierre froide sous ma main. C'était le contraire avec les forgisés. À l'évidence, une vie violente mouvait leur corps, mais mon vif ne les sentait que comme de la pierre. Je m'efforçais d'établir un rapport entre ces deux expériences, mais seule demeura la comparaison incongrue qui m'était venue. Je jetai un coup d'œil autour de moi, mes compagnons s'étaient égayés dans la forêt, et passaient d'une sculpture à l'autre, s'appelant et poussant des cris de ravissement chaque fois qu'ils en découvraient une nouvelle ensevelie sous le lierre ou les feuilles mortes. Je les suivis lentement. Nous étions peut-être arrivés à la destination indiquée sur la carte. C'était même presque certain,
si le cartographe avait respecté son échelle. Cependant, pourquoi ici? Quel intérêt présentaient ces statues? J'avais tout de suite saisi l'importance de la cité. Il s'agissait peut-être du lieu d'origine des anciens. Mais ceci... Je pressais le pas pour rattraper Ketriken et la trouvai à côté d'un taureau ailé. Il dormait, les pattes repliées sous lui, ses puissantes épaules resserrées, son lourd museau près des genoux. C'était la réplique parfaite d'un taureau, depuis les vastes cornes jusqu'à la touffe de poils au bout de la queue. Ses sabots fendus étaient enfouis dans l'humus et donc invisibles, mais ils existaient sûrement. La reine avait les bras écartés pour mesurer l'envergure des cornes. Comme tous les autres, le dragon avait des ailes qui reposaient sur son vaste dos noir. « Pourrais-je voir la carte ?» demandai-je à Ketriken, qui émergea de sa rêverie avec un sursaut. « J'ai déjà vérifié, » répondit-elle à mi-voix. « Je suis convaincu que c'est bien la zone indiquée. Nous avons franchi les vestiges de deux ponts de pierre, ce qui correspond à ce que montre le document, et la marque que porte la colonne trouvée par le fou est semblable à celle que vous aviez copiée dans la ville et qui désignait cette destination. À mon avis, nous nous trouvons sur ce qui était autrefois les rives d'un lac. C'est du moins ainsi que j'interprète la carte. » Les rives d'un lac. Je hochai la tête tout en réfléchissant à ce que m'avait montré la carte de vérité. Peut-être. Il se serait envasé, puis transformé en marécage. C'est possible. Mais alors, que signifient toutes ces statues? D'un geste vague, elle désigna la forêt. Il s'agissait peut-être d'un jardin, ou d'une espèce de parc? Je promenais mon regard autour de moi, puis secouai la tête. Ça ne ressemble à aucun jardin de ma connaissance. Les statues ont l'air d'avoir été disposées au hasard. Or, un jardin ne doit-il pas avoir une certaine unité, un certain thème? C'est du moins ce que m'a expliqué Patience. Ici, je ne vois que des sculptures vautrées au sol, sans le moindre signe de sentier, de parterre, ni de... Ketriken. Toutes les statues représentent-elles des créatures endormies? Elle réfléchit un moment, le front plissé. Je crois, oui. Et il me semble que toutes possèdent des ailes. Alors, nous sommes peut-être dans un cimetière, dis-je, et il y aurait des tombes sous ces créatures. Nous sommes peut-être en présence d'un art héraldique, étrange, qui symboliserait ainsi les caveaux de différentes familles. Ketriken regarda autour d'elle d'un air pensif. C'est une possibilité, en effet, mais pourquoi cela apparaîtrait-il sur une carte? La même question se pose pour un jardin, répliquai-je. Nous passâmes le reste de l'après-midi à explorer les environs, et nous découvrîmes de nouveaux animaux en grand nombre. Il y en avait de toutes sortes et de tous styles, mais ils étaient invariablement ailés et endormis, et ils se trouvaient là depuis très longtemps. En y regardant de plus près, j'observais que c'étaient les arbres qui avaient poussé autour des statues, et non les statues qui avaient été déposées entre eux. Certaines étaient presque enfouies sous la mousse et l'humus. De l'une d'elles, on ne voyait plus rien sinon un énorme museau muni de crocs qui saillaient du sol marécageux. Ces crocs dénudés avaient des reflets d'argent et les pointes acérées. Pourtant, je n'en ai pas trouvé une seule qui soit fissurée ou à laquelle manque le moindre éclat. Chacune paraît aussi parfaite qu'au jour de sa création. D'autre part, je n'ai pas réussi à comprendre comment on a donné ces couleurs à la pierre. On ne dirait pas de la peinture ni de la teinture, et les intempéries n'ont pas l'air de les avoir ternies. J'exposai mes réflexions à mes compagnons réunis autour du feu de camp du soir, tout en tirant avec le peigne de Ketriken sur les nœuds de mes cheveux mouillés. En fin d'après-midi, je m'étais éclipsé pour me laver de la tête aux pieds pour la première fois depuis que nous avions quitté Jaamp, et aussi tenté de nettoyer certains de mes vêtements. Revenu au bivouac, je m'étais aperçu que tous mes compagnons avaient eu à peu près la même idée que moi. L'air renfrogné, Caudron mettait du linge à sécher sur un dragon. Ketriken avait les pommettes plus roses que d'habitude et elle avait retressé ses cheveux encore humides. Quant à Astérie, elle paraissait avoir oublié sa colère contre moi. De fait, elle avait l'air de nous avoir tous oubliés. Le regard perdu dans les flammes du feu de camp, elle arborait une expression méditative et il me semblait voir dans sa tête les mots et les notes culbutées en tous sens pour s'assembler au mieux. Je me demandais comment se déroulait le processus, s'il se rapprochait de l'effort à fournir pour résoudre les problèmes que me soumettait Caudron, et j'éprouvais une curieuse impression à observer son visage en sachant qu'une chanson était en train de prendre forme dans son esprit. Œil de Nuit vint appuyer sa tête contre mon genou.
« Je n'aime pas dormir au milieu de ces pierres vivantes, » me confia-t-il.
« On dirait qu'ils peuvent s'éveiller d'un instant à l'autre, » observai-je. Avec un soupir, Caudron s'était assise près de moi, devant le foyer. Elle secoua lentement sa vieille tête.
« Ça m'étonnerait, »
fit-elle à mi-voix. On l'eût dite presque au bord des larmes.
« Eh bien, puisque leur mystère nous demeure insoluble et que les vestiges de la route s'arrêtent ici, nous laisserons les dragons demain et reprendrons notre périple, » annonça Ketriken.
« Que ferez-vous ? » demanda le fou à voix basse. « Si vous ne trouvez pas vérité à la dernière destination indiquée par la carte ?»«
Je l'ignore, » avoua Ketriken sur le même ton. « Mais je ne compte pas m'en inquiéter avant l'heure. Je puis encore agir. Tant que je n'aurai pas épuisé cette solution, je ne perdrai pas espoir. »
J'eus l'impression qu'elle en parlait comme d'un jeu dans lequel il lui restait un dernier coup à jouer qui pouvait encore mener à la victoire. Et puis, je me dis que j'avais dû passer trop de temps à me concentrer sur les problèmes de Caudron. D'un coup sec, je débarrassai mes cheveux d'un ultime nœud, après quoi je les nouai en queue.
« Accompagne-moi à la chasse avant que la lumière ait complètement disparu. »
« Je crois que je vais aller à la chasse avec Œil de Nuit ce soir, » annonçai-je en me levant. Je m'étirai, puis haussai les sourcils d'un air interrogateur à l'adresse du fou, mais il paraissait perdu dans ses réflexions et ne réagit pas. Comme je m'éloignais du feu, Ketriken m'appela.
« Ne risquez-vous rien tout seul ?»«
Nous sommes loin de la route d'Ar. Je viens de connaître ma journée la plus paisible depuis pas mal de temps, enfin, par certains côtés. »
« Nous sommes peut-être loin de la route d'Ar, mais nous ne nous en trouvons pas moins au cœur d'une région autrefois occupée par des artiseurs, et ils ont laissé leur empreinte partout. Vous ne pouvez vous prétendre en sécurité dans ces collines. Vous ne devriez pas y aller seul. »
Œil de Nuit, impatient de se mettre en chemin, émit un petit gémissement du fond de la gorge. J'étais tout aussi pressé que lui de partir, de me mettre à l'affût, de courir, de me déplacer dans la nuit sans pensée humaine. Mais je ne voulais pas négliger l'avertissement de Caudron.
« Je vais avec lui, » déclara soudain Astérie.
Elle se leva et s'épousta les mains sur les hanches. Si quelqu'un en dehors de moi trouva sa décision étrange, il ne le manifesta pas. Je m'attendais au moins à un adieu moqueur de la part du fou, mais il garda les yeux dans le vague, perdu dans l'obscurité. J'espérais qu'il n'était pas en train de retomber malade.
« Ça te dérange si elle nous accompagne ?»
demandai-je à Œil de Nuit. Il poussa un soupir résigné, puis s'en alla dans la pénombre au petit trot. Je le suivis plus lentement et la ménestrelle m'emboîta le pas.
« Est-ce qu'il ne faudrait pas le rattraper ?»
fit-elle quelques instants plus tard. La forêt et le crépuscule se refermaient sur nous. Œil de Nuit était invisible, mais je n'avais pas besoin de le voir. « Quand nous chassons, » répondis-je, non dans un murmure mais tout de même à voix basse, « nous allons chacun de notre côté. » Si l'un de nous lève du gibier, l'autre arrive promptement pour intercepter l'animal ou participer à la poursuite. Mes yeux s'étaient habitués à la faible lumière. Notre battue nous entraînait loin des statues, dans une partie de la forêt que la main de l'homme n'avait pratiquement pas touchée. Les fragrances du printemps étaient fortes. Les grenouilles et les insectes chantaient tout autour de nous. Je tombai bientôt sur la cendre d'un animal et me mis aussitôt à la suivre. Astérie me talonnait, non sans bruit, mais sans trop de maladresse non plus. Lorsqu'on se déplace dans la forêt, de jour ou de nuit, on peut se mouvoir avec elle ou contre elle. Certains savent s'y prendre instinctivement, d'autres n'y arrivent jamais. Astérie se mouvait avec la forêt, se baissait pour passer sous certaines branches basses et contournait les autres tandis que nous avancions dans la nuit. Elle n'essayait pas de se frayer de force un chemin dans les taillis que nous rencontrions, mais se tournait au contraire de côté, pour éviter de s'empêtrer dans leurs branches ramifiées.
Tu fais tellement attention à elle que tu ne verrais pas un lapin, même si tu marchais dessus,
me morigéna Œil de Nuit. À cet instant, un lièvre détala d'un buisson au ras de mon sentier. Je me lançai à sa poursuite plié en deux pour mieux le suivre. Il était beaucoup plus rapide que moi, mais je le savais. Il y avait toutes les chances pour qu'il décrive un cercle. Je savais aussi qu'Œil de Nuit se précipitait pour l'intercepter. J'entendais Astérie qui s'efforçait de rester derrière moi, mais je n'avais pas le temps de penser à elle. J'essayais de ne pas perdre de vue le lièvre qui zigzaguait entre les arbres et se faufilait sous les souches. Par deux fois, je faillis l'attraper. Et par deux fois, il m'échappa grâce à un demi-tour foudroyant. Mais la seconde fois, il se rua droit dans les mâchoires du loup. Œil de Nuit bondit, cloua l'animal au sol à l'aide de ses pattes avant, puis saisit son petit crâne entre ses crocs et d'une secousse brusque, lui brisa la nuque. J'avais éventré notre proie et sorti les entrailles pour le loup, quand Astérie nous rejoignit. Œil de Nuit avala voracement les viscères.
« Si on allait en chercher un autre »
proposa-t-il, sur quoi il s'enfonça rapidement dans la nuit.
« Il vous abandonne toujours la viande comme ça ?» me demanda la ménestrelle.
« Il ne me l'abandonne pas, il me la confie.
C'est la meilleure heure pour chasser, et il espère donc attraper une autre proie sans tarder. Si ce n'est pas le cas, il sait que je lui aurai gardé la viande, et que nous partagerons plus tard. » J'accrochai le lièvre à ma ceinture, puis je me mis en marche dans l'obscurité, la cuisse battue par le petit corchot.
« Ah !» fit la ménestrelle, et elle me suivit. Peu de temps après, comme en réponse à une remarque que j'aurais faite, elle déclara
« Votre lien de vif avec le loup ne me choque pas. »
« Moi non plus, » répondis-je à voix basse. Quelque chose m'irritait dans les mots qu'elle avait choisis. Je continuais à fureter le long de la sente, la vue et l'ouïe en alerte. J'entendais les pas étouffés d'Œil de Nuit sur ma gauche, en avant de moi, et j'espérais qu'il rabattrait du gibier vers moi. Quelques instants plus tard, Astérie reprit.
« Et je ne parlerai plus du fou au féminin, quels que soient mes soupçons. »«
C'est bien, » répondis-je, sans m'engager. Je ne ralentis pas mon allure.
« Ça m'étonnerait vraiment que tu fasses un bon chasseur ce soir. »«
Ce n'est pas moi qui l'ai voulu.
Je sais. »
« Désirez-vous aussi que je m'excuse ?»
fit la ménestrelle d'une voix basse et tendue. « bafouillai-je avant de me taire, car j'ignorais de quoi elle parlait exactement.
« Parfait, » dit-elle d'un ton glacé mais résolu. « Je vous présente mes excuses, seigneur Fitz-Chevalerie. »
Je me retournai brusquement face à elle.
« Pourquoi faites-vous ça ?» demandai-je. J'avais renoncé à m'exprimer à voix basse, et je sentis Œil de Nuit passer le sommet de la colline pour chasser seul. « Madame, la reine, m'a ordonné de cesser de semer la discorde dans le groupe. Elle a dit que le seigneur Fitz-Chevalerie portait de nombreux fardeaux, dont j'ignorais tout, et qu'il ne méritait pas d'endurer en plus ma désapprobation, » déclara-t-elle d'un ton formaliste. Je m'interrogeais. Quand cette conversation avait-elle eu lieu? Mais je n'osais pas m'en enquérir. Rien de tout ça n'était nécessaire, fis-je. Je me sentais bizarrement honteux, comme un enfant gâté qui a boudé jusqu'à ce que ses camarades cèdent à son caprice. Je pris une profonde inspiration, décidé à m'exprimer avec franchise et à voir ce qui en sortirait. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez retiré votre amitié, en dehors du fait que je vous ai révélé mon vif, et je ne comprends pas non plus vos soupçons envers le fou, ni ce qui, en eux, vous met en colère. La tension qui règne entre nous m'est odieuse, et j'aimerais que nous soyons amis, comme avant. Vous ne me méprisez donc pas d'avoir porté témoignage que vous aviez reconnu l'enfant de Molly ? Je cherchais au fond de moi ces sentiments perdus. Mais il y avait longtemps que je n'y avais même plus pensé. Humbre était déjà au courant de son existence, dis-je à mi-voix. Il aurait trouvé un moyen, même si vous n'aviez pas été là. C'est un homme qui a beaucoup de ressources. Et j'ai fini par comprendre que vous ne vivez pas selon les mêmes règles que moi. Autrefois, si, répondit-elle doucement. Il y a longtemps. Avant que le fort ne soit mis à sac et moi laissé pour morte. Après, il m'a été difficile de faire confiance aux règles. On m'avait dépouillé de tout. Le beau, le bon, le véridique avaient été dévastés par le mal, la convoitise et l'avidité. Non, par quelque chose d'encore plus vil que la convoitise et l'avidité, par un mobile que je n'arrivais même pas à comprendre. Alors que les pirates me violaient, ils ne paraissaient en tirer aucun plaisir, du moins pas le genre de plaisir que...
Ils se moquaient de ma souffrance et de mes efforts pour leur échapper, ceux qui regardaient riaient en attendant leur tour. Son regard était perdu dans les ténèbres du passé. Je crois qu'elle parlait autant pour elle-même que pour moi, à la recherche d'un sens qui défiait toute appréhension. On aurait dit que quelque chose les poussait. Mais ce n'était pas une convoitise ni une avidité qu'on pouvait assouvir. Ils avaient le pouvoir de m'infliger ce qu'ils m'ont fait. Alors, ils me l'ont infligé, c'est tout. J'avais toujours été persuadé, de façon puérile peut-être, que si on se pliait aux règles, on était protégé, qu'on ne risquait rien de ce genre. Après, je me suis senti floué, stupide, naïve, d'avoir cru que des idéaux pouvaient me protéger. L'honneur, la courtoisie, la justice, rien de tout ça n'existe, Fitz. Nous y prétendons tous, et nous les brandissons comme autant de boucliers, mais ils ne gardent que de ceux qui portent les mêmes boucliers. Contre ceux qui les ont rejetés, ce ne sont plus des boucliers, mais seulement de nouvelles armes que ces hors-la-loi utiliseront pour faire souffrir. J'éprouvais un instant de vertige. Jamais je n'avais entendu une femme décrire de tels événements en y mettant si peu de passion. La plupart du temps, d'ailleurs, on n'en parlait pas. On évoquait rarement les viols commis lors des attaques des pirates rouges, les grossesses qui s'en suivaient parfois, enfin, les bâtards que des femmes des six duchés mettaient au monde. Je pris soudain conscience que j'étais immobile, depuis longtemps, et que le froid de la nuit me gagnait. « Rentrons au camp, » dis-je abruptement. « Non, » répondit-elle. « Pas tout de suite. J'ai peur de pleurer, et je préfère que ça se passe dans le noir. » La nuit était presque complètement tombée. Je conduisis Astérie sur une sente plus large que la première, et nous nous assîmes sur le tronc d'un arbre abattu. Autour de nous montaient les chants d'amour des grenouilles et des insectes. « Ça va ?» demandai-je au bout d'un moment. « Non, ça ne va pas, » répliqua-t-elle. « J'ai besoin que vous me compreniez. Je n'ai pas vendu votre enfant pour rien, Fitz. Je ne vous ai pas trahi gratuitement. D'ailleurs, je n'avais même pas envisagé la situation sous cet angle au début. Qui ne désirerait que sa fille devienne princesse, puis reine? Qui ne lui souhaiterait des vêtements fins et un beau palais? Je ne pensais pas que vous ni votre maîtresse considéreriez cela comme un malheur pour la petite. » Molly est mon épouse, dis-je à mi-voix, mais elle ne m'entendit sans doute pas. Et puis, même après avoir compris que ça ne vous plairait pas, j'ai révélé l'existence de votre enfant en sachant que ça me vaudrait une place ici à vos côtés pour être témoin de ce que vous allez faire, pour voir ce qu'aucun autre ménestrel n'a jamais vu, comme ces statues, aujourd'hui, parce que c'était ma seule chance d'avoir un avenir. Il me faut une chanson. Je dois assister à un événement qui m'assurera pour toujours une place d'honneur parmi les ménestrels, qui me garantira ma soupe et mon vin quand je serai trop vieille pour voyager de château en château. N'auriez-vous pas pu choisir de prendre un mari pour partager votre vie et vos enfants ? Demandai-je. Apparemment, vous attirez l'œil des hommes sans trop de mal. Il y en aurait sûrement un qui... Nul homme ne veut d'une femme stérile pour épouse, dit-elle. Sa voix se fit monocorde. À la chute de Château-Bazin, Fitz, on m'a laissée pour morte, et je suis restée au milieu des cadavres, certaine de mourir bientôt car je n'imaginais pas de continuer à vivre. Autour de moi, les bâtiments étaient en flammes, les blessés criaient, et je sentais l'odeur de la chair brûlée. Elle se tut. Quand elle reprit, ce fut d'un ton un peu plus égal. Mais je ne suis pas morte. Mon corps était plus fort que ma volonté. Le deuxième jour, je me suis traîné jusqu'à un puits et j'ai bu. Quelques autres rescapés m'ont découverte là. J'avais survécu. Et je pensais m'en tirer mieux que beaucoup, jusqu'à ce que, 2 mois plus tard, j'ai acquis la certitude que ce qu'on m'avait affligé était pire que la mort. Je savais que je portais un enfant engendré par une de ces créatures. Je suis donc allé voir une guérisseuse qui m'a donné des herbes, sans le moindre résultat. Je suis retourné la voir, et elle m'a mis en garde, en affirmant que si les plantes n'avaient pas eu d'effet, mieux valait laisser la nature suivre son cours.
mais je me suis rendu chez une autre guérisseuse, qui m'a remis une autre potion. Celle-ci m'a fait saigner. L'enfant a été éliminé ainsi, mais je n'ai pas cessé de saigner. J'ai de nouveau consulté les guérisseuses, toutes les deux, mais ni l'une ni l'autre n'a pu m'aider. Elles m'ont dit que mes saignements s'arrêteraient d'eux-mêmes avec le temps. Mais la première m'a prévenu que je ne pourrais sans doute plus jamais concevoir. Sa voix devint tendue, puis ce voilà. Vous trouvez indécente ma façon de me conduire avec les hommes, je le sais. Mais une fois qu'on a été violé, tout devient différent pour toujours. Je sais maintenant que ça peut m'arriver à tout instant, alors ainsi, je décide au moins quand et avec qui. Je n'aurai jamais d'enfant, et par conséquent pas d'homme à demeure. Pourquoi donc ne pas en profiter? J'ai eu des doutes sur ce sujet, vous savez, à cause de vous, jusqu'à Œil de Lune. Là, j'ai eu à nouveau la démonstration que j'avais raison, et je me suis rendu à Jaampe en me sachant libre de tout faire pour assurer ma survie, car il n'y aura jamais ni homme ni enfant pour s'occuper de moi quand je serai vieille. D'une voix chevrotante, elle ajouta « Parfois, je me dis que la forgisation aurait été préférable. Non, ne dites jamais ça, jamais !» Je n'osais pas la toucher, mais elle se tourna subitement vers moi et enfouit son visage contre ma poitrine. Je passai un bras autour de ses épaules et m'aperçus qu'elle tremblait. Je me sentis forcé de confesser ma stupidité. Je n'avais pas compris. Quand vous avez annoncé que les soldats de Ronce avaient violé certaines des femmes, j'ignorais que vous en faisiez partie.
Hein ?
Fit-elle d'une toute petite voix.
Et moi, j'ai cru que vous n'y attachiez pas d'importance.
J'ai entendu des gens en Bauge affirmer que le viol ne gêne que les vierges et les femmes mariées. Je pensais que, de votre point de vue, une traînée comme moi n'avait eu que ce qu'elle méritait. Astérie. Une bouffée de colère irrationnelle me prit à l'idée qu'elle pût me croire à ce point, insensible, et puis je réfléchis. J'avais vu son visage couvert de meurtrissures. Pourquoi n'avais-je rien deviné? Je n'avais même jamais abordé avec elle le sujet de ses doigts brisés sur ordre de Ronce. Cela m'avait soulevé le cœur, mais je n'avais pas réagi par peur de représailles pires encore contre elle. J'avais supposé qu'elle le savait, et qu'elle m'avait retiré son amitié simplement à cause de mon loup. Et elle, qu'avait-elle pensé de ma réserve envers elle? J'ai été cause de bien des souffrances dans votre vie, dis-je. Ne croyez pas que j'ignore la valeur des mains d'une ménestrelle, ni que les viols dont vous avez été victime me laissent indifférent. Si vous souhaitez en parler, je suis prêt à écouter. Parfois, cela soulage. Et parfois non, rétorqua-t-elle. Elle se serra soudain plus fort contre moi. Le jour où vous vous êtes présenté devant nous tous, et que vous avez décrit en détail tout ce que Royal vous avait infligé, j'ai souffert pour vous ce jour-là. Mais cela n'a rien changé à ce que vous aviez subi. Non. Je ne tiens pas à en parler, ni même à y penser. Je portai sa main à mes lèvres et baisai doucement les doigts qu'on avait brisés à cause de moi. Je ne confonds pas ce qu'on vous a fait et ce que vous êtes, dis-je. Quand je vous regarde, je vois Astérie chant d'oiseau la ménestrelle. Je la sentis hocher la tête contre ma poitrine et je compris que je ne m'étais pas trompé. Elle et moi partagions la même crainte. Et nous ne voulions pas être considérés comme des victimes. Je demeurai immobile, en silence, et songeai, encore une fois, que même si nous retrouvions vérité, même si par miracle, son retour modifiait l'issue de la guerre et nous donnait la victoire, cette victoire viendrait beaucoup trop tard pour certains. La route que j'avais suivie était longue et fatigante, mais je persistais à espérer trouver au bout une existence que j'aurais librement choisie. Cet espoir, Astérie ne l'avait même pas. Si loin qu'elle fuit, à l'intérieur du pays, elle n'échapperait jamais aux séquelles de la guerre. Je la serrai contre moi, et je sentis sa souffrance saigner en moi. Quelques minutes plus tard, ses tremblements s'apaisèrent. « Il fait nuit noire, » dis-je. « Mieux vaut regagner le camp.
Elle soupira, mais se redressa et me prit la main. Je voulus l'entraîner vers le bivouac, mais elle me retint.
« Faites l'amour avec moi, » fit-elle avec simplicité. « Rien qu'ici et maintenant, avec douceur et amitié, pour effacer l'autre. Donnez-moi au moins cela de vous-même. »
J'avais envie d'elle. J'avais envie d'elle avec une violence qui n'avait rien à voir avec l'amour, ni même guère, je pense, avec le désir. Elle était tiède, vivante, et nous y aurions trouvé un réconfort naturel et chaleureux. Si j'avais pu faire l'amour avec elle, et que cela ne change rien au regard que je portais sur moi-même, ni à mes sentiments pour Molly, je l'aurais fait. Mais ce que je ressentais pour Molly ne cessait pas d'exister lorsque nous étions loin l'un de l'autre. J'avais donné à Molly ce droit de propriété sur moi, et je ne pouvais l'annuler simplement parce que nous étions séparés pour quelque temps. Cependant, je ne voyais pas comment expliquer à la ménestrelle qu'en choisissant Molly, je ne la rejetais pas, elle. Aussi dis-je, œil de nuit revient. Il a attrapé un lapin. Astérie se rapprocha de moi et me caressa le cou de la main. Ses doigts suivirent la ligne de ma mâchoire, puis effleurèrent mes lèvres.
« Renvoyez-le, » murmura-t-elle.
« Je ne pourrais pas l'envoyer assez loin pour qu'il ne sache pas tout ce que nous partagerions, » répondis-je avec sincérité. Sa main s'immobilisa.
« Tout ?»
demanda-t-elle d'un ton atterré.
« Tout. »
Le loup vint s'asseoir près de nous, un lapin entre les crocs. Nous sommes liés par le vif. Nous partageons tout. Elle retira sa main et s'écarta de moi, puis baissa les yeux sur la silhouette noire du loup.
« Alors, tout ce que je viens de vous dire ?»
Il le comprend à sa façon. Pas comme un humain, mais...
« Qu'en pensait Molly ? »
fit-elle brusquement. J'inspirai brutalement. Je ne m'attendais pas que notre conversation prît ce tour. Elle n'a jamais été au courant, répondis-je. Œil de nuit repartit en direction du campement et je le suivis, quoique plus lentement. Astérie m'emboîta le pas.
« Et quand elle sera au courant ? »
insista-t-elle.
« Elle acceptera ce... partage ? Comme ça ?»«
Sans doute pas, » marmonnai-je à contre-cœur. Pourquoi Astérie me forçait-elle toujours à penser à ce que j'avais toujours évité d'envisager ?«
Et si elle vous oblige à choisir entre le loup et elle ?»
Je m'arrêtai un instant, puis repris ma marche, un peu plus vite cette fois. La question restait en suspens dans mon esprit, mais je refusais de l'étudier. C'était impossible. On n'en arriverait jamais là. Pourtant, une voix chuchotait tout au fond de moi. « Si tu dis la vérité à Molly, on en arrivera là, forcément.
Vous allez la mettre au courant, n'est-ce pas ?»
Astérie me talonnait sur la seule question que je ne voulais pas affronter.
« Je n'en sais rien, »
répondis-je, lugubre.
« Ah !»
Au bout d'un moment, elle reprit.
« Quand un homme dit ça, en général, ça signifie « Non, mais je jouerai de temps en temps avec l'idée de façon à me convaincre que j'y viendrai un jour ou l'autre. »«
Vous voulez bien vous taire, s'il vous plaît ?» Ma voix était sans force. Astérie me suivit en silence. « J'ignore qui je dois plaindre, vous ou elle ?» observa-t-elle finalement. Les deux, peut-être, fis-je d'un ton glacial. Je ne voulais plus aborder le sujet. Le fou était de garde quand nous parvînmes au camp. Caudron et Kétriken dormaient.
Bonne chasse ?
Demanda-t-il d'un ton amical. Je haussai les épaules. L'air satisfait, couché au pied du fou, Œil de nuit était déjà en train de dévorer le lapin qu'il avait rapporté.
Assez bonne,
répondis-je, en levant le second lapin. Le fou le prit. Elle l'accrocha d'un geste désinvolte au piquet de la yourte.
« Pour le petit déjeuner, »
me dit-il calmement. Il jeta un rapide coup d'œil à la ménestrelle, mais s'il s'aperçut qu'elle avait pleuré, il n'en tira nulle plaisanterie. J'ignore également ce qu'il lut sur mon visage, car il ne fit aucun commentaire. Astérie pénétra dans la tente derrière moi. J'ôtai mes bottes et m'enfonçai avec soulagement sous mes couvertures.
Quand je sentis la ménestrelle se coller contre mon dos quelques instants plus tard, je ne m'en étonnais guère, et jugeai qu'elle avait dû me pardonner. Mais cela ne m'aida pas à trouver le sommeil. Je finis néanmoins par m'endormir. J'avais dressé mes murailles mentales, et pourtant, par je ne sais quel miracle, je fis un rêve qui ne devait rien à personne. Je rêvais que j'étais assis près du lit de Molly, et que je veillais sur son sommeil et celui d'Ortie. Le loup était à mes pieds, tandis que, sur un tabouret au coin de la cheminée, le fou hochait la tête, apparemment très content. Le tissu de jeu de Caudron était déplié au milieu de la table, mais les cailloux noirs et blancs avaient été remplacés par de minuscules statues de dragons, de même couleur, mais toutes différentes. Les pierres rouges étaient devenues des navires, et c'était à moi de jouer. Je tenais le pion qui pouvait me permettre de gagner la partie, mais n'avais qu'un désir, regarder Molly dormir. C'était un rêve presque paisible.